C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des bacheliers stressés. C'est le jour J pour le grand oral, la grande nouveauté de ce bac 2021. 20 minutes pour défendre un sujet et ses choix d'orientation. Parole de lycéens dans un instant. Le jour J pour les régionales, c'était hier. Un scrutin déserté, abstention historique au premier tour. Autre leçon, le score moins bon que prévu du RN, l'échec de La République En Marche, la prime au président de région sortant. À suivre dans ce journal, la gauche qui s'unit face à Valérie Pécresse en Ile-de-France et Laurent Wauquiez, grand gagnant en Auvergne-Rhône-Alpes. À suivre également le procès des violentes émeutes de Pontoise, c'était à l'été 2016, et les commerçants furieux contre Amazon qui cassent les prix avant les soldes.
Et dans 20 minutes à 7h50, la suite de ce 7-9 spécial élection régionale avec la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati.
France Inter.
Et ils sont plus de 500 000 à se ronger les ongles aujourd'hui, Sébastien. Le grand oral, ça commence.
Le grand oral, épreuve inédite du bac, nouvelle formule, malgré la crise sanitaire. Il aura bien lieu, donc, convocation des premiers candidats ce matin. Un sujet choisi parmi deux thèmes travaillés pendant l'année. 5 minutes de présentation, 10 minutes de questions, puis un échange sur le projet d'orientation de l'élève. Alors, comment les élèves, justement, se sentent à quelques heures du grand saut? Sonia Princey.
Les candidats ont préparé leur sujet qu'ils présenteront pendant 5 minutes au jury. Sans pression, Mathieu s'attend à une sorte de gros exposé.
Je le vois pas comme une épreuve dure. Forcément, je le vois plus comme un exposé qu'on pourrait faire au lycée dans l'année, par exemple. Ce qu'on fait déjà, en fait. Après, peut-être que je vais être impressionné sur le moment. Hein. Je sais pas du tout. Je verrai bien.
Mais ce qui inquiète le plus Irina, c'est la suite.
Là, je suis juste stressée par rapport aux interventions des professeurs. Il y a un aspect du sujet que je pensais pas qu'il fallait traiter ou quoi que ce soit. Et du coup, je me retrouve à improviser. J'ai peur de ça un petit peu. Mais sinon, en soi présenté, je sais, je vais un petit peu réciter, je pense, parce que j'ai tout mon texte en tête. J'ai essayé de, je veux dire, des questions qui peuvent vraiment intéresser le jury, qui sortent un peu de l'ordinaire quand même, pour me détacher un peu des autres et faire quelque chose d'original.
Maïssa aussi est prête, mais elle ne pensait pas qu'elle serait aussi tendue juste avant l'épreuve.
Surtout parler devant des jurys qu'on connaît pas, c'est assez stressant quand même. Faut pas. On nous dit que ça va bien se passer, mais on appréhende quand même jusqu'au jour J, en fait.
Les élèves ont la pression. Le grand oral représente 10% de la note du bac en filière générale et encore plus 14% en filière technologique.
Voilà, le grand oral avec Sonia Princey. 525 000 candidats exactement convoqués à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 juillet prochain.
7h33, jamais les électeurs français, Sébastien, n'ont autant boudé les urnes sous la 5e République.
Ce premier tour des régionales et des départementales entrera en effet dans les livres d'histoire. Pour sa participation la plus faible depuis plus de 60 ans, près de 68% d'abstention. L'autre enseignement de ce matin, c'est la primo sortant. Presque tous les présidents de région en place arrivent en tête avec de bons scores pour le parti Les Républicains, une gauche qui résiste. En revanche, le Rassemblement National fait de moins bons scores qu'en 2015. 19%, 9 points de moins qu'il y a 6 ans. Échec également pour la majorité présidentielle. On y reviendra. L'une des régions les plus regardées hier soir, c'était la région la plus riche, l'Île-de-France. Résultat, la présidente sortante Valérie Pécresse arrive largement en tête, avec près de 36% des suffrages, loin devant Jordan Bardella, du RN qui ne fait que 13%, juste derrière Jordan Bardella. La surprise, elle vient des Verts, premier parti de gauche, près de 13%, premier devant la socialiste Audrey Pulvar, Julien Bayou, et l'insoumise Clémentine Autain, la gauche qui a choisi de s'allier sous le leadership des écologistes Laurence Perron.
Bayou, président de région, ça il y croit.
Il y a match, il y a une partie qui est possible. Il y a une quasi-égalité et une surprise qui nous reste à créer. C'est tout l'enjeu de la campagne de second tour. L'écologie est centrale. Même les candidats et candidates de droite se sont peints en vert. Hein. Vous allez voir que très vite, on va passer du greenwashing au green bashing, à l'écolo-bashing. Nous, on n'a pas changé.
Le chemin, c'est une fusion avec les listes socialistes et insoumises. Audrey Pulvar, comme Clémentine Autain, qui aurait pu se maintenir, ont choisi de jouer collectif, mais pas à vil prix. Il y a bien sûr les enjeux locaux. Garde-t-on ou pas la gratuité des transports, voulue par Audrey Pulvar? Abandonne-t-on la gare au milieu du triangle de Gonesse? Les écologistes seront intraitables.
Pour notre part, on l'a dit, et on ne change pas d'avis, il faut protéger les terres agricoles.
Les négociations de cette nuit vont durer encore ce matin. À la lumière aussi des tractations qui ont lieu dans d'autres régions, le maintien de la liste écologiste en PACA, qui divise même au sein d'Europe Écologie Les Verts, va peser lourd sur la qualité de l'alliance des gauches en Ile-de-France.
Laurence Perron, et ajoutons qu'en Ile-de-France, pourtant la région la plus macroniste à la présidentielle, le candidat de la majorité a largement échoué. Laurent Saint-Martin rêve quatrième. La République En Marche, qui au niveau national ne fait que 10% des voix, une claque électorale, Simon Le Baron, malgré 13 ministres en campagne.
Emmanuel Macron avait pourtant mouillé la chemise. Jeudi dernier encore, le président était dans les Hauts-de-France. Le symbole est fort, c'est dans cette région que la claque fait le plus mal. Quatre ministres avaient été envoyés au secours du secrétaire d'État Laurent Pietraszewski, dont les poids lourds Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Échec cuisant, les marcheurs ne seront pas au second tour. Pas de miracle non plus en Ile-de-France. Les cinq ministres en lice, dont les médiatiques Marlène Schiappa et Gabriel Attal, n'ont pas réussi à faire mieux que la quatrième place. Quatrième aussi Marc Fesneau, pourtant meilleur espoir du gouvernement en Centre-Val de Loire. Quatrième encore Brigitte Klinkert dans le Grand Est. Troisième et sans espoir de victoire, Geneviève Darrieussecq en Nouvelle-Aquitaine. Matignon peut se cacher derrière l'abstention record, le contexte inédit, la primo sortant. Emmanuel Macron et ses troupes en sont réduits à chercher dans le score du Rassemblement National leur seul lot de consolation.
Simon Le Baron, alors pour les résultats de ce premier tour, le feuilleton à suivre cette semaine, ce sera la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un duel entre le sortant LR Renaud Muselier et le RN Thierry Mariani, devant avec moins de 5 points d'avance. Tous les yeux sont tournés vers le troisième homme, l'écologiste Jean-Laurent Felidia, qui dit vouloir se maintenir au second tour, très critiqué par l'état-major des Verts, des Socialistes et des Communistes. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand en très bonne place pour conserver la région avec près de 42% des voix, 17 points devant le RN, un bon point à un an de la présidentielle. Et puis même scénario en Auvergne-Rhône-Alpes où Laurent Wauquiez lui est donné à près de 44% des voix, 30 points devant le Rassemblement National. Mathilde Imberti.
Une déclaration très courte, 3 minutes pour le grand vainqueur du premier tour, Laurent Wauquiez, confiant et usant les mêmes mots-clés que pendant la campagne.
Ce choix net, c'est celui d'agir fermement contre l'insécurité, notamment en supprimant l'accès aux aides de la région pour les délinquants ou en déployant la reconnaissance faciale contre les criminels. Ce choix net, c'est celui d'une nouvelle espérance, avec l'espoir de pouvoir relocaliser l'industrie et les emplois dans notre région. Et je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance, bien au-delà de toutes les attentes.
Derrière Laurent Wauquiez, loin derrière, Fabienne Grébert crée la surprise en arrivant deuxième. L'écologiste mènera la liste de Gauche Unie dimanche prochain. Elle fait mieux que la socialiste Najat Vallaud-Belkacem.
Nous avons besoin de vous qui voulez donner du sens à votre emploi, engager la transition de vos entreprises. Nous avons besoin de vous qui voulez simplement respirer dans la vallée de l'Arve comme à Villeurbanne. Il n'y a pas de fatalité.
Enfin, le Rassemblement National chute. Andréa Cotarac en troisième position appelle, comme Marine Le Pen, au sursaut.
Un sursaut patriote, un sursaut pour lutter contre l'indigénisme, l'islamisme qui gangrène aujourd'hui notre patrie. Donc j'appelle les électeurs du Rassemblement National à aller voter.
Laurent Wauquiez aussi souhaite un retour aux urnes pour que la région, dit-il, soit solide et tourne la page de la crise. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Ajoutons enfin une région en suspens, les Pays de Loire, où la victoire de la gauche n'est pas exclue après une fusion entre les écologistes et les socialistes. La droite en tête dans le Grand Est avec Jean Rentner, avec Hervé Morin en Normandie, et puis à gauche, la socialiste Carole Delga en bonne posture en Occitanie, comme Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine et Marie-Guite Dufay en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les résultats, les enseignements de ce premier tour sur franceinter.fr. Matinale spéciale sur Inter jusqu'à 9h. Dans le reste de l'actualité, ce procès des émeutes urbaines de juillet 2016 à Pontoise, quelques jours après la mort d'Adama Traoré. Après son contrôle par les gendarmes, pas de blessés graves pendant ces quelques nuits de violence, mais des tirs à balles réelles sur des policiers. 4 personnes sont ainsi poursuivies pour tentative de meurtre, Emmanuel Leclerc.
Pour les policiers et les gendarmes victimes de tirs en juillet 2016, rien ne justifie que des hommes embusqués derrière des façades sur un toit les aient pris pour cible avec des carabines et des fusils équipés de lunettes de visée. Laurent Franck Liénard est l'avocat de plusieurs agents touchés lors des émeutes de Beaumont-sur-Oise.
Adama Traoré était mort, donc il fallait un mort de l'autre côté. Et ça, là, on est vraiment dans le domaine criminel. On n'est plus du tout dans le domaine de l'émeute. Il y avait plusieurs armes utilisées, et notamment des armes létales. Il y avait des fusils de chasse en calibre 12, il y avait une carabine en calibre 22 long rifle. Tout ça tue de manière évidente. La volonté homicide, elle est là.
Pour l'un des avocats de la défense, Raphaël Kempf, cette affaire, bien bien au contraire, n'auraient pas dû se retrouver devant une cour d'assises.
C'est-à-dire que les magistrats instructeurs, à la fin de leurs investigations, ont indiqué qu'il n'y avait pas dans ces émeutes d'intention de donner la mort. C'est uniquement un soulèvement qui doit être compris, qu'on le veuille ou non, comme un soulèvement spontané en réaction à un événement absolument tragique, qui est la mort d'un jeune homme entre les mains de la gendarmerie.
77 personnes au total, policiers, gendarmes et résidents de Beaumont-sur-Oise, se sont portés partie civile dans ce procès devant la cour d'assises de Pontoise.
Emmanuel Leclerc, le comité Vérité pour Adama a appelé un rassemblement cet après-midi à Pontoise pour l'ouverture du procès. Attention pour ceux qui prennent les transports en Île-de-France aujourd'hui, le trafic est perturbé suite à un mouvement social, un train sur trois notamment, sur les lignes C, D et E du RER.
Et on termine, Sébastien, avec des commerçants en colère.
Des commerçants qui se plaignent des pratiques commerciales de leurs pires concurrents. J'ai nommé Amazon qui organise pendant deux jours les Prime Days, les promotions en ligne juste avant les soldes. Ça ne passe pas, Manuel Ruffez.
Ils ont tout fait pour obtenir le report de cette opération de promotion, mais en vain.
C'est de la concurrence déloyale, c'est de la provocation, c'est une déclaration de guerre.
Ce collectif de commerçants dénonce une volonté d'Amazon de court-circuiter le commerce traditionnel et dénonce aussi un gouvernement qui ne peut que laisser faire. Christian Baulme, le président des commerçants et artisans des métropoles de France.
Le gouvernement, en l'état actuel de la législation, en l'état actuel de la réglementation, est impuissant et ne se donne pas les moyens d'être puissant puisqu'ils n'ont toujours pas attaqué les modifications qui leur permettraient de nous mettre en équité au minimum fiscal vis-à-vis des pure players.
Et ces commerçants soupçonnent Amazon de vouloir mener cette opération avant une nouvelle réglementation européenne sur la TVA le 1er juillet. Francis Palombi de la Confédération des commerçants de France.
Amazon, jusqu'à présent, payait 100 millions de droits de TVA. Il aurait dû en payer 1,3 milliard. Et Amazon, bien sûr, s'engouffre dans la possibilité d'avancer les Prime Days pour également se dispenser de payer cette taxe à la TVA.
Le gouvernement a tout de même promis des contrôles très stricts pendant cette opération de promotion d'Amazon.
Voilà, les commerçants en colère contre le géant du commerce en ligne, c'était Emmanuel Ruffez.
Merci Sébastien Legénie, l'édito politique à suivre.